Extrait de La vie sexuelle des super-héros, Marco Mancanzola. Robin avait fait son apparition une nuit avec ses cheveux blonds pâles, ses taches de rousseur sur le nez, si conformes au goût inconscient de Bruce qu'il semblait dessiné tel un prototype par le dieu bienveillant des amours parfaites. C'était un garçon timide mais déterminé. Il savait s'accrocher à une idée et ne pas la lâcher, aussi tenace qu'une morsure de serpent. Il rougissait en permanence et avait du mal à regarder quelqu'un dans les yeux. Il était athlétique, s'entraînait avec une équipe de lutte gréco-romaine et sur le tapis de combat, il manifestait une hargne inattendue, presque désespérée. Bruce était tombé sur lui un soir dans une ruelle, au cœur d'une bagarre, seul contre deux hommes qui apprendraient par la suite l'avait traité de tapette. Bruce avait repoussé les deux assaillants, puis, sans un mot, il s'était apprêté à repartir vers d'autres tâches. Le jeune homme l'avait prié d'attendre. Le nez en sang, le regard fuyant et enflammé, il s'était approché. « Alors tu existes vraiment ?» avait-il observé. « Je l'ai toujours cru, toujours espéré. » Bruce avait fixé ses yeux verts un instant de trop, et cet instant avait changé leur vie à tous les deux. En grandissant, il n'avait pas perdu son allure de garçon sage, indifférent aux complications de ce monde et aux règles de plus en plus perverses, de plus en plus incohérentes du désir humain. « Je t'aime, Bruce. Pourquoi tout ne peut-il pas être comme avant ?»« Moi aussi, je t'aime, » répondait Bruce les premières fois. Tu resteras avec moi, tu vivras près de moi. Mais les choses ont changé à présent. Nous sommes différents, nous avons mûri. Après deux autres années ensemble, ils avaient quitté l'ancienne villa et s'étaient installés en ville, dans le West Village. C'était la fin des années 80, le monde des super-héros se transformait et on avait appris que le groupe de Red Richards s'était dissous et Batman avait révélé son existence au public. Robin avait été contrarié par ce virage. Il estimait que le monde avait besoin de héros légendaires enveloppés dans les brumes de l'impossible. Bruce ne voyait pas de quoi Robin parlait. Sans le vouloir, ils étaient rapidement devenus un des couples les plus en vue de New York. Ils étaient beaux, célèbres et miraculeusement en bonne santé. Trois choses qui n'étaient pas si fréquentes dans ces années-là chez les couples d'hommes. Les magazines People s'intéressaient à eux. Leur boîte aux lettres débordait d'invitations à des événements mondains. La nouvelle de leur relation s'était propagée comme un incendie et avait enflammé l'imagination du public. À l'évidence, les gens se passionnaient pour une histoire d'amour au moment précis où elle allait se terminer. Au fil du temps, Bruce avait cessé de s'en amuser. Il avait toujours aimé l'idée qu'on parle de lui, mais pas en termes si grotesques. Et au fond, il n'était guère satisfait que son nom fût encore associé à celui de Robin. Il se sentait désormais si loin de lui. Robin était mort par une nuit d'hiver dans le coin le plus sombre de Central Park, où la police scientifique estimait qu'il avait été traîné de force et où on l'avait égorgé. Ses yeux grands ouverts étaient également gelés et lorsque Bruce était arrivé le matin, il s'y était reflété et avait reconnu son pauvre visage, celui d'un homme mûr et désormais seul. Le monde persistait à considérer sa préférence pour les hommes comme allant de soi. Les associations gays l'invitaient à leurs manifestations et les journaux le comptaient parmi les gays les plus influents de la planète. Il avait tenté de se débarrasser de son image d'icône gay en expliquant ce qu'il en était à l'occasion de deux interviews. Mais le mythe persistait. Aux yeux de beaucoup, il restait cela, un roi de l'homo-érotisme, un totem pour les homosexuels du monde entier. Des hommes de tout âge lui faisaient des propositions dans les situations les plus improbables. Une autre fois, à l'occasion d'un discours public pour l'inauguration d'un musée au Texas, un groupe d'activistes anti-gays avait protesté en hurlant et en sifflant et levé des pancartes qui disaient « Super gay, super honte !»« Non aux chauves-souris gays !»« Laissez nos garçons tranquilles !» Avant cela, il avait toujours ignoré que puissent exister des personnes de ce genre, des hommes et des femmes qui géraient des sites internet aux propos nazis, qui signaient des pétitions afin de réclamer l'enfermement des homosexuels dans des camps de concentration, qui louaient des cars entiers et parcouraient des centaines de kilomètres dans le but de huer des personnalités gays ou présumées telles. Les associations gays répondaient en portant plainte devant la justice. Manifestement, une guerre faisait rage. Mais en quoi cela le concernait-il, lui ? Pendant ce temps, l'enquête sur le meurtre de Robin avait justement suivi cette piste. La police pensait qu'il pouvait s'agir d'un crime homophobe.